Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Pour comprendre l'importance du rôle qu'a joué François Viète dans l'histoire de France, remontons le temps jusqu'en 1589, au début du règne d'Henri IV. La France, je le rappelle, est en pleine guerre de religion, la 8e et dernière pour être précis. Du fait de la confession protestante du nouveau souverain, qui s'est converti évidemment, les catholiques et surtout le puissant mouvement de la Ligue lui opposent une violente lutte armée. Dans cette entreprise, ils ont un soutien de taille, le roi Philippe d'Espagne. Henri IV est donc en mauvaise posture. Coûte que coûte, il tente de reprendre aux ligueurs les provinces du nord de la France. Et il a peut-être un atout dans sa manche. Ses soldats ont intercepté plusieurs lettres de l'ennemi dont le contenu pourrait s'avérer capital. Mais voilà, ces courriers signés de la main d'un officier de la Ligue, un certain Juan de Moreo, et destinés au roi d'Espagne, sont cryptés. Les lettres ont été rédigées selon un système de chiffrement sophistiqué, mis au point par les Espagnols. Système que personne sans la clé n'est censé pouvoir pénétrer. Personne. Sauf peut-être un génie. Et il se trouve qu'un homme dans l'entourage d'Henri IV a la réputation d'en être un de génie. Un haut magistrat du royaume, tout dévoué à sa carrière politique, mais qui a un hobby, les mathématiques. Il s'appelle donc François Viète. Et le roi a eu vent de ses prouesses. Henri IV décide donc en octobre 1589 de lui confier une mission impossible, celle de décrypter le message. Contre toute attente, Viète y parvient en quelques mois et rend ses résultats le 15 mars 1590. Hasard du calendrier, cette découverte survient quelques heures trop tard. La veille, oui, la veille, Henri IV a remporté sur l'armée ligueuse une victoire décisive, celle de la bataille d'Ivry, mais l'effort n'a pas été vain pour autant. D'abord, parce qu'il révèle au grand jour un complot de lèse-majesté. Le message codé indique que le duc de Mayenne, à la tête de la Ligue, depuis la mort de son frère, le duc de Guise, nourrit un dessein secret, devenir roi à la place d'Henri IV. Ensuite, car il va permettre à François Viète de lire la correspondance secrète espagnole pendant plusieurs années, chose que les Espagnols pensaient impossible. Si impensable d'ailleurs que le roi d'Espagne, lorsqu'il l'apprend, accuse Viète de sorcellerie, allant jusqu'à envoyer une lettre au pape pour s'en plaindre. Mais la magie, évidemment, n'a rien à voir là-dedans. Viète n'a fait que mettre en application ses compétences mathématiques et son sens aigu de la méthode scientifique. Et notamment, il l'expliquera plus tard dans un mémoire qu'il écrira juste avant sa mort en 1603, en faisant appel à un raisonnement équivalent à celui utilisé pour la résolution d'un système d'équations. Bon alors, laissez-moi tenter de vous expliquer de manière excessivement simplifiée l'une des méthodes qu'il utilise. Le code secret des Espagnols se base sur un système de substitution mono-alphabétique, c'est-à-dire que les lettres du message ont été substituées par d'autres lettres. Pour les déchiffrer, Viète part d'une hypothèse simple et qui se vérifie souvent dans la langue espagnole. Dans une suite de trois lettres consécutives, il s'en trouve au moins une qui est une voyelle. Et bingo ! Grâce à cette hypothèse, il parvient à isoler triplet après triplet les lettres les plus utilisées, celles qui remplacent A, E, I, O, U. La crypto-analyse est née et François Viète réalise là un grand coup d'éclat. Mais cet exploit retentissant n'est pas le seul à inscrire à son palmarès, ni d'ailleurs le plus fondamental, vous allez le voir. Il est même étonnant qu'un tel homme soit resté dans les pages oubliées de l'histoire française. Né à Fontenay-le-Comte, dans le Poitou, en 1540, François Viète est issu d'une famille bourgeoise. De formation juridique, il fait une brillante carrière qui le mène jusqu'aux plus hauts offices du royaume. D'avocat auprès de grandes familles, il devient conseiller au Parlement de Rennes, sous Charles IX, puis maître des requêtes ordinaires de l'Hôtel du Roi, sous Henri III, et enfin conseiller au Parlement de Paris, sous Henri IV, avant de devenir son conseiller privé. En parallèle, Viète nourrit une passion dévorante pour les mathématiques, discipline qu'il poursuit en amateur, mais qui le consume tant, dit-on, qu'il lui arrive de ne pas manger ni dormir pendant plusieurs jours. Et cela porte ses fruits. Vous souvenez-vous, Mathieu, de vos cours de mathématiques au collège et au lycée ?
Hélas, je m'en souviens.
Des équations d'algèbre utilisant des lettres plutôt que des chiffres pour poser un problème de manière abstraite. X plus Y égale A. Si C est équivalent à tant de fois X, alors combien vaut Y ? Etc. Eh bien, cette manière de poser les problèmes de maths, c'est en partie à François Viète qu'on la doit. Il est l'un des tout premiers à adopter l'usage de lettres pour représenter des quantités connues et inconnues. Cela ne vous parle peut-être pas, mais ce fut un progrès fondamental. Grâce à cette écriture, il est désormais possible de s'intéresser à la structure d'un problème mathématique et de traiter le cas général plutôt que le cas particulier. Cette approche est si novatrice pour l'époque qu'elle n'intéresse pas grand monde, et les écrits mathématiques qu'il a produits furent uniquement publiés à compte d'auteur et destinés à un cercle restreint d'amis. François Viète ne se limitait pas à la résolution algébrique des équations, d'ailleurs. Loin s'en faut. Dans le domaine de la géométrie, on lui doit par exemple un ouvrage de trigonométrie tout à fait remarquable, ainsi qu'une méthode de résolution des équations numériques par approximation successive. En outre, il était parvenu à calculer une valeur approchée de pi avec 10 décimales. Ah, un exploit pour l'époque. On lui doit aussi de remarquables travaux d'astronomie dont malheureusement il ne reste pas beaucoup de traces, et notamment un ouvrage intitulé « L'harmonicon céleste » dans lequel Viète aurait eu, avant Kepler, l'intuition du mouvement elliptique des planètes. Rien que ça. Mais malheureusement pour lui, notre homme ne connaîtra jamais la gloire comme mathématicien, ou si peu. Il meurt en 1603, au tournant d'un siècle durant lequel, en revanche, ses travaux feront grand bruit. Ils furent repris par de grands mathématiciens, notamment René Descartes, qui s'en inspira largement dans son application de l'algèbre à la géométrie. Descartes, tout le monde connaît. Le nom de Viète, en revanche, a été largement oublié, même s'il a une rue ici ou là. Comme dans une équation, François Viète reste un inconnu qui aurait mérité grandement de ne pas le rester.
Europe 1, historiquement vôtre.